Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. C'est le dernier numéro de cette année 2024 et comme cela est de coutume, c'est l'heure de faire le bilan et de revenir sur les principaux faits marquants de cette année qui s'écoule. Que retenir de ces 12 mois en ce qui concerne l'économie africaine et des relations économiques entre le Maroc et ses partenaires du continent? Nous en parlons longuement avec notre analyste Idriss Lingé, directeur de rédaction de Media Mania. Et puis, dans le Zoom Express, nous irons au Kenya pour parler des débouchés qui s'y offrent dans le secteur de l'artisanat. Le Kenya, un pays touristique qui veut s'exporter dans le monde. Nous serons avec le patron de Kenya For You, Anaïs Tienda. Tels sont les sujets de cette émission. Tout de suite, le développement.
Coémergence, l'invité.
Notre invité, que vous connaissez bien, il s'appelle Idriss Lingé, le directeur des rédactions de Media Mania. Si vous suivez Coémergence tous les jours, c'est lui qui nous anime la rubrique Destination Éco. Aujourd'hui, on va élargir l'horizon pour parler de l'ensemble du continent parce que c'est la fin d'année. Alors, c'est l'heure des rétrospectives. Que retenir donc de l'actualité économique et des faits marquants économiques en Afrique? Nous en parlons avec Idriss Lingé. Bonjour à vous, Idriss Lingé, et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Omar Baldé, bonjour à tous les auditeurs de Midi en Radio.
Alors Idriss Lingé, une question simple, que retenir justement en 2024 des faits marquants ou bien de l'actualité économique africaine?
Une question simple mais complexe parce qu'il s'agit de résumer les faits marquants dans pratiquement une cinquantaine, 54 pays sur le continent et ça ne peut pas toujours être quelque chose d'évident. Mais pour résumer, ce qu'on va dire, on a constaté, notamment en Afrique subsaharienne, y compris l'Afrique du Sud, qu'on a commencé à ressentir les fruits de la résilience. Parce que les deux années précédentes, l'Afrique avait été frappée par différents chocs mondiaux. Déjà, on absorbait encore difficilement les effets de la COVID-19. Après, sont survenus d'autres chocs, notamment la guerre entre la Russie et l'Ukraine et progressivement l'escalade dans le Moyen-Orient qui ont entraîné une série de chocs qui ont forcément pesé sur les économies d'Afrique subsaharienne très dépendantes des produits importés et donc qui ont subi dans la première moitié de l'année, qui ont subi en 2023 la hausse des prix telle qu'on l'a vécu, l'inflation à tout va, qui avait forcé les banques centrales à resserrer les taux directeurs et donc forcément à réduire les quantités de crédit, donc réduire la capacité de financer les économies. En 2023, on a ressenti une certaine détente. La plupart des monnaies ont gagné de la valeur par rapport au dollar, qui est encore la monnaie de référence mondiale. La plupart des économies ont connu un recul de l'inflation et la plupart des économies ont connu un regain de croissance. Mais après, tout ça est très différencié. On a par exemple des économies comme celle de l'UMOA, l'Afrique de l'Ouest francophone, où on a assisté à une vraie remontée économique, une vraie baisse de l'inflation et après à une vraie stabilisation pour l'ensemble des pays. Le petit bémol, c'est peut-être le conflit qu'il y a eu entre le Niger et ses voisins en raison du coup d'État et notamment le conflit avec le Bénin qui a un peu perturbé à quelques moments donnés les livraisons de pétrole du Bénin, mais finalement, ça a été résolu, des cargaisons ont été livrées et c'est correct. On a aussi des pays exceptionnels comme par exemple la RDC, la République démocratique du Congo, qui a fortement réduit son inflation. Elle est partie d'une inflation de 23% en 2023 pour revenir à une inflation de moins de 9% selon les dernières données de la Banque centrale. Sa monnaie s'est stabilisée, ses réserves de change se sont renforcées et le pays est en train de progressivement prendre le contrôle de la valeur de ses ressources minières. Et c'est des bonnes nouvelles qu'on a pu assister par là. Et enfin, il y a la CEMAC. La CEMAC, qui
c'est la communauté économique des États de l'Afrique centrale.
En effet. Qui est dans des défis préoccupants, même si pas graves, mais préoccupants quand même, et qui a nécessité une urgence particulière des États. Enfin, le Nigeria. Le Nigeria, c'est la plus grosse économie d'Afrique, 226 millions d'habitants, mais elle est éminemment au bord de l'effondrement parce que les politiques publiques qui ont été mises en place depuis l'arrivée du nouveau gouvernement sont mal transmises et créent des distorsions au sein d'une économie qui a besoin de se libérer complètement, mais qui peine à trouver des clés.
Alors, Idriss Lingé, je pense que si je vous laisse, vous allez pratiquement survoler le continent pays par pays. C'est très intéressant, hein, ce wrap-up, comme le disent les Anglais, hein, ce résumé que vous venez de nous faire par rapport donc à la situation économique en 2024 en Afrique. Alors, lors du déclenchement de la guerre en Ukraine en 2022, on avait vu, et vous l'avez évoqué, comment les économies africaines ont eu du mal à s'adapter. On se rappelle de ces demandes de livraison de céréales, notamment venant d'Ukraine ou de Russie. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'en 2024, les économies africaines ont réussi à s'adapter à cette conjoncture économique mondiale marquée notamment par des conflits, je pense à l'Ukraine bien évidemment, mais aussi au Proche-Orient?
Bon, c'est assez différencié. Il y a des pays qui dépendent toujours des importations de blé de l'Ukraine. C'est le cas de l'Algérie ou encore de l'Égypte, qui ne peuvent pas, en fait, du blé qui vient soit de la Russie, soit de l'Ukraine. Ils ne peuvent pas s'en passer parce que les systèmes productifs existent, mais ne sont pas suffisants pour satisfaire à une demande intérieure qui est très forte. Maintenant, qui, par exemple, est parvenu à régler son problème d'autosuffisance, on a aussi constaté qu'il y a eu la substitution dans certaines économies, notamment en Afrique de l'Ouest francophone, et même dans des pays où on ne pouvait plus forcément importer, comme le Nigeria, on a assisté à des effets de substitution. Des produits qui étaient jusque-là abandonnés, comme la patate, le manioc ou encore le maïs, ont été produits en plus grande quantité et ont servi de substitution. Les gens ont changé leur modèle de consommation parce que, si on ne peut pas manger le pain, on ne peut pas manger le pain. Mais bon, ce qu'on peut dire, grosso modo, c'est que oui, les économies africaines se sont bien adaptées. On note, par exemple, globalement, elles sont adaptées à tout, pas que le blé. Je veux dire, il y a le de palme, il y a le riz, par exemple. On assiste de plus en plus à des politiques publiques qui visent à créer de l'import-substitution. Ces politiques sont autant d'opportunités d'ailleurs pour des investisseurs internationaux comme le Maroc, qui peuvent apporter leur technologie, qui peuvent vendre des engrais pour que cet import substitution alimentaire puisse fonctionner. Donc on assiste à ces changements, les effets prennent du temps pour se mettre en place, mais on a très bien vu que par exemple dans la zone UEMOA, la zone Union économique et monétaire d'Afrique de l'Ouest, les pays francophones de la zone CEDEAO, on a bien vu que les prix, par exemple, des céréales qui tiraient l'inflation ont reculé, ce qui a permis que l'inflation puisse reculer à autour de 2,5% contre 7,5% deux ans auparavant.
Alors, parlons d'investissement. Est-ce que les économies africaines ont réussi à attirer plus d'investissements que l'année précédente, par exemple?
Alors, les investissements en Afrique, quel que soit le plus 10%, moins 10%, pour moi, ça ne fait aucune différence parce que c'est des investissements qui sont extrêmement minimes comparés à la globalité des investissements dans le monde. Et en plus, la manière dont ces investissements sont menés ne sont pas toujours profitables à l'Afrique. En réalité, l'investissement devient intéressant lorsque ça génère un cercle vertueux de revenus qui viennent gonfler l'épargne. Alors qu'en Afrique, en général, lorsqu'on investit, on assiste davantage à des investissements qui mettent des systèmes d'extraction ou des investissements qui viennent financer des secteurs extractifs comme les minerais et autres. On voit très peu d'investissements où le gars il vient investir, il va réaliser du bénéfice et il va laisser le bénéfice à l'intérieur du pays. La deuxième chose, c'est que l'investissement en Afrique prend encore toujours la forme d'une dette. Et la dette, vous le savez très bien, j'injecte de l'argent dans votre économie, mais non seulement je vais récupérer cet argent, Mais en plus, je vais aussi prendre les dividendes de cet investissement ou alors je vais prendre les intérêts de cet investissement. Ça fait donc que ce sont des investissements qui pèsent énormément sur la balance des paiements des pays africains et qui ne sont pas intéressants. Nous sommes toujours en attente de vrais investissements. C'est le cas, par exemple, au Maroc. Le Maroc est un des pays qui attire des investissements, ou encore l'Égypte ou l'Afrique du Sud. Ce sont des pays qui attirent des investissements qui viennent véritablement booster le développement, créer des emplois qualifiés au niveau local, mais aussi gonfler l'épargne nationale qui permet aujourd'hui au Maroc d'être lui-même une économie qui va à la conquête des autres économies.
Idriss Lindjé, je ne peux pas vous laisser partir sans vous poser justement cette question et c'est la raison d'être de cette émission. D'ailleurs, comment ont évolué les relations économiques entre le Maroc et ses partenaires du continent?
Alors écoute, elles évoluent plutôt très bien, mais je dois plutôt noter qu'une chose très importante que le Maroc a faite et qui est passée inaperçue, c'est que très récemment, il y a eu une réunion entre les responsables marocains et les responsables de Zambie et de RDC. Pourquoi c'est très important? Parce qu'à partir de 2025, Omar Baldé, l'économie mondiale sera tournée vers les semi-conducteurs. La Chine a investi 150 milliards de dollars, mais elle importe toujours pour 400 milliards de dollars de semi-conducteurs. Les États-Unis sont en train d'investir 90 milliards de dollars. L'Europe essaye de rattraper son retard, mais personne ne parvient à fournir suffisamment de semi-conducteurs. Parce que malheureusement, le monde de demain, les énergies vertes et tout le reste sont en train de devenir dépendants des semi-conducteurs. Or, ces semi-conducteurs, Omar Baldé, dépendent du cuivre, du silicium, du germanium, dont des pays comme la RDC et la Zambie sont fortement possesseurs. Alors, on a vu le Maroc aller discuter avec ces gens. Le Maroc qui a déjà développé une très grande compétence en matière, par exemple, d'automobile, en matière de technologie de pointe, le Maroc pourrait effectivement un jour attirer les investissements sur les semi-conducteurs en s'appuyant sur des approvisionnements peut-être de la Zambie et de la RDC. Et ça, c'est très important parce qu'on a connu jusque-là le Maroc qui était conquérant sur le plan financier, sur le plan de l'immobilier, sur le plan de l'agriculture, sur le plan, par exemple, de la mécanique et de l'automobile. Mais aujourd'hui, on est en train de voir un Maroc qui peut rattraper le retard africain sur le marché des semi-conducteurs qui, comme le disent certains, hein, vous savez, les 50 dernières années étaient les années du pétrole, les 50 prochaines années seront peut-être les années des semi-conducteurs.
En tout cas, c'est une belle conclusion. Je pense qu'Idriss Lindjé, certainement, on va se retrouver la semaine prochaine pour reparler de ce bilan, mais aussi revenir sur les perspectives pour l'année 2025. Ce fut un plaisir, comme chaque semaine, de vous avoir dans Coémergence, Idriss Lindjé. On vous souhaite une très belle année 2025 avec nos meilleurs voeux, Idriss Lindjé.
Au revoir Omar Baldé et à très bientôt avec les auditeurs de Média 1 Radio.
Merci.
Zoom Express.
Je vous le disais tout à l'heure, nous allons consacrer ce Zoom Express à la promotion de l'artisanat africain et nous prenons la direction du Kenya. Le Kenya, un pays touristique qui veut s'exporter dans le monde. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Anaïs Tienda, elle est la patronne de Kenya for You. Bonjour à vous, Anaïs Tienda, et merci d'avoir accepté notre invitation.
Djambo à vous, Djambo. Djambo. Le plaisir est le mien.
Ah, ben écoutez, Djambo, c'est en Swahili ou bien c'est en une autre langue locale?
Oui, c'est le Kiswahili et ça veut dire bonjour.
Bonjour, ben en ce cas, on vous dit Djambo aussi. Alors, nous avons le plaisir de recevoir avec vous Mustapha El Bouri, directeur général du cabinet Best Afrique. Alors, Djambo, Mustapha El Bouri.
Djambo, Omar, comment ça va?
Ça va très bien, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette rubrique donc, que nous consacrons aux diasporas africaines, les diasporas africaines qui vivent dans le continent mais aussi en dehors du continent. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la promotion de l'artisanat au Kenya. Alors tout d'abord, Anaïs Tiende, parlez-nous de Kenya for You.
Alors, Kenya for You est une plateforme qui permet de vendre le Kenya et de vendre les artisans kenyans. Vous savez, quand on parle du Kenya, la plupart des gens pensent juste aux safaris et aux plages magnifiques, mais ils n'ont aucune idée de la richesse de la culture du Kenya. Et justement, la plateforme permet une mise en relation entre les artisans kenyans et le public international, parce qu'ils sont très doués, très habiles, très fins, mais malheureusement, ils ont du mal à se vendre à l'international. Donc, notre rôle à nous, c'est de pouvoir leur amener une clientèle du monde, et pouvoir s'assurer de tout ce qui est contrôle qualité, logistique, paiement, parce que pour la plupart ne parlent même pas forcément anglais. Ils s'expriment beaucoup en kiswahili, ce qui fait que ce soit vraiment une barrière pour pouvoir internationaliser leur business.
Alors, mais que proposent les artisans kényans?
Ils proposent tellement de choses. Ça va de la mode, de la décoration, aux objets du quotidien. C'est vraiment vaste. La gamme de produits est variée. Et c'est pour ça qu'on a aussi des clients variés. Ça va des simples diasporiens d'Afrique qui veulent reconnecter avec le patrimoine africain. Ça va des propriétaires de boutiques afro. Ou alors, tout simplement, vous voyez, de plus en plus, il y a des mariages interraciaux. Donc, il y a aussi des Occidentaux qui s'intéressent à la culture et à l'art kényan. Mmh. Donc, en fonction, c'est vraiment une gamme variée de produits. Ça passe vraiment de la mode à l'aménagement d'intérieur. C'est assez large.
Mmh. En tout cas, on y reviendra en détail. Alors, je me tourne vers Mustapha El Bouri, directeur général de la plateforme Best Afrique qui connecte les diasporas africaines et les diasporas étrangères basées en Afrique. Alors, Mustapha El Bouri, parlez-nous justement de ce secteur de l'artisanat en Afrique et du potentiel qu'il offre.
Oui, Omar, en fait, c'est vrai que c'est un secteur qui est très important. Pour donner quelques chiffres, le secteur de l'artisanat au sein du continent, il fournit près de 70% des emplois et il concerne près de 90% de la main-d'œuvre des entreprises. Donc, c'est énorme, énorme. Donc, c'est vrai que le secteur d'artisanat pour les pays africains, c'est à mon avis, c'est un fort potentiel développement. Il faut savoir aussi qu'ils luttent aussi, ils luttent contre la pauvreté et ils créent énormément de revenus d'emploi. Mais comme a dit Anaïs, il est aussi en proie à d'énormes difficultés. Des artisans ont du mal à écouler leurs produits et ils ont besoin qu'on les accompagne, qu'on les aide et ils ont besoin aussi de plateformes comme celle d'Anaïs pour faciliter la vente. Hein. L'artisanat en Afrique, pour moi, c'est vraiment une forme d'expression qui est à la fois culturelle et économique qui est très riche. Et ça varie, c'est vrai que là on parle du Kenya, mais c'est présent dans toute l'Afrique, ça varie d'un pays à l'autre. Et d'une région à l'autre également.
En tout cas, l'artisanat, donc, vecteur d'identité. Anaïs Tienda, je rappelle que vous êtes donc la patronne de Kenya For You, une structure qui, œuvre pour la promotion de l'artisanat Kenya à l'étranger et l'exportation donc des produits artisanaux du Kenya. Je vous posais tout à l'heure la question à savoir que proposent les artisans kenyans. Mais là, ce que j'aimerais vous poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il y a cette prise en compte du facteur marketing, du packaging ou bien du branding par rapport à ces produits-là?
Oui, justement, on essaie de pouvoir nous conformer aux standards internationaux. En termes de marketing, justement, on est, parce que comme je disais, on a par exemple dans notre réseau des artisans qui ont plus de 70 ans. Donc, on ne va pas leur demander d'être sur les réseaux sociaux, ils ne connaissent rien. Eux, ils sont doués avec leurs mains et ils ne peuvent faire que ça. Donc, on s'occupe vraiment pour eux de pouvoir prospecter des clients. On fait le marketing à leur place. C'est vraiment une relation, en fait, win-win. En termes de packaging, vous savez, tout le handmade n'a pas besoin d'un packaging trop compliqué. Donc, on essaye de rester connecté à la nature pour ne pas dénaturer, justement, le produit d'origine. Donc, on essaye juste vraiment d'avoir des finitions qui répondent aux normes internationales. On essaye vraiment d'apporter de la valeur, mais en restant authentique.
De la valeur, donc, marchande authentique. Alors, cela dit, aujourd'hui, vous nous parliez tout à l'heure de vos clients, mais dans quel pays s'exporte davantage ou le plus cet artisanat kényan?
Actuellement, c'est beaucoup plus aux États-Unis, mais pour une raison simple. Parce qu'il y a des partenariats entre le Kenya et les États-Unis qui permettent de pouvoir contourner la contrainte des frais douaniers. On a essayé de prospecter des produits des pays occidentaux, mais les contraintes de taxes, c'est quand même, ça reste un frein. Parce que souvent, les frais de douane et de transport sont plus élevés que le produit lui-même. Donc, du coup, plein de clients désistent, quoi. Donc, par contre, travailler aux États-Unis, c'est beaucoup plus simple parce qu'il y a des conventions entre pays qui permettent justement de pouvoir contourner ces contraintes. Je n'ai même pas envie de parler de l'Afrique de l'Est parce qu'il y a une libre circulation de personnes et de biens. Donc, c'est évident que dans l'Afrique de l'Est, on s'exporte facilement. Mais du côté occident, le pays le plus publicité, c'est les États-Unis.
Alors, avant de me tourner vers Moustapha El Bouri, une question me vient à l'esprit. Anaïs Tienda, aujourd'hui, si un investisseur décidait de se lancer dans le domaine de l'artisanat au Kenya, que lui conseillerez-vous?
De venir déjà sur place pour connaître le marché, pouvoir fréquenter la culture, comprendre la culture des Kenyans, parce que c'est assez atypique. Ici, ils aiment dire « Hakuna Matata ». Ça veut dire « Tout va bien, tout est calme ». Donc, ils n'aiment pas la pression. Donc, si vous venez avec votre mentalité occidentale où il faut courir, non, non, eux là, franchement, ils vont slowly, slowly. Ils délivrent, mais à l'heure, ils... Donc, il faut trouver comment leur mettre un peu de pression, mais gentiment, sans que ça ne devienne toxique. Donc, il faut connaître le marché, il faut voyager, il faut connaître les cultures, il faut pouvoir s'adapter.
En tout cas, c'est important. Alors, Moustapha El Bouri, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que c'est facile de financer le secteur de l'artisanat en Afrique?
Le financement en termes de microcrédit, je pense que c'est faisable, c'est abordable. Maintenant, comme a dit Anaïs, pour faire des gros projets et financer des gros projets, c'est peut-être là où il y aura peut-être un peu plus de travail de fond à faire. Et des montages de projets à faire. C'est d'ailleurs à cela qu'on s'attelle à faire. Et il faut faire des montages de projets en incluant des sortes de coopératives entre tous les artisans, de façon à avoir une force aussi, et pouvoir avoir un catalogue qui est assez varié. Parce que, bon, comme vous savez, l'artisanat, ça touche à tous les domaines, que ce soit la bijouterie, la textile, la teinture, la couture, la maroquinerie ou bien d'autres. Donc, il faut vraiment créer... Il faut en faire vraiment un métier en tant que tel. Voilà. Mais le financement, je pense qu'il est là.
Alors, peut-être que ce sera la dernière question. Moustapha El Bouri, est-ce que le Maroc est célèbre par son artisanat, il faut le dire, à travers le monde. C'est un artisanat qui s'exporte, donc le royaume. Est-ce que l'exemple marocain pourrait inspirer aux Kenyans?
Oui, vous avez abordé un très bon sujet, Omar. Oui, c'est vrai. C'est vrai que l'artisanat marocain a fait de très grands pas durant la dernière décennie. Et je pense qu'il y a des idées à reprendre. Hein. Il y a des idées à reprendre de part et d'autre d'ailleurs. Mais il y a des idées à reprendre en termes de structuration. Et je pense aussi qu'on devrait aussi regarder l'échange de produits artisanaux à l'intérieur même du continent.
Justement.
Et non pas toujours essayer de chercher à exporter. À l'extérieur du continent. Voilà.
Alors, une dernière question, cette fois-ci, à Anaïs Tienda. Pensez-vous que les perspectives s'annoncent prometteuses, puisque nous sommes en cette fin d'année et que 2025 s'annonce donc dans quelques jours?
Oui, on est optimiste. Hein? Et c'est justement pour ça qu'on continue. Mais je pense qu'on gagnerait aussi à pouvoir trouver des partenariats avec des entreprises de logistique, pour pouvoir davantage internationaliser, et aussi avec des plateformes de e-commerce. Plus on en parle, plus on s'expose, et plus on a des clients.
Il y a de belles perspectives. Merci à vous, Anaïs Tiendia. Je rappelle que vous êtes donc la patronne de Kenya For You, une structure qui œuvre donc pour la promotion et l'exportation des produits artisanaux du Kenya. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Asante sana.
J'imagine que ça veut dire au revoir ou merci. Depuis le Maroc, on dira shukrana. Voilà, merci exactement. Également à Moustapha El Bouri, directeur général de la plateforme Best Afrique. Ce fut un plaisir de vous avoir à nouveau, Moustapha El Bouri.
Le plaisir est partagé, toujours partagé.
Merci et à vous deux ainsi qu'à l'ensemble de nos auditeurs. Nous souhaitons une très belle année 2025 qui s'annonce donc dans quelques jours. Et puis, au plaisir de vous retrouver donc la semaine prochaine en 2025, Inch'Allah. Merci d'avoir suivi Coémergence. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur notre plateforme Média Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programme sur Média et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, Inch'Allah.